partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue et merci d'être au rendez-vous sur IDFM Radio. Un rendez-vous placé aujourd'hui sous le signe du leadership féminin et son potentiel face aux problématiques du quotidien. Biens immobiliers, chambres de commerce, recouvrement de factures impayées, transport routier, bénévolat. Ce matin, 31 janvier, dans ce nouveau numéro de l'économie en direct, découvrons le parcours de trois femmes chefs d'entreprise qui se sont imposées sans complexe dans des univers jusque-là plutôt masculins et qui, face à la crise, font preuve de force et d'endurance. Avec moi pour en parler, Danielle Dubrac. Bonjour Danielle.
Bonjour.
Francky, qu'est-ce que tu veux dire à Danielle ? Non ? Pas de souci. Donc bon, Danielle, un grand merci pour votre présence dans nos studios. Ingénieure de formation, vous êtes la fondatrice et dirigeante du cabinet Sebimo à Saint-Ouen, présidente de l'UNIS, premier syndicat professionnel d'administrateurs de biens immobiliers, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Seine-Saint-Denis et très impliquée au niveau associatif. Vous nous dévoilerez ce parcours réussi et les actualités de vos multiples responsabilités.
Bonjour.
Bonjour Danielle. À vos côtés, Gania Selam. Bonjour Gania.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir sur ce plateau, Gania. Vous êtes la fondatrice et dirigeante du cabinet SAA Gestion, spécialisée dans l'externalisation de relance facture. Vous nous expliquerez les différentes missions de votre activité ainsi que votre vision de ce métier devenu incontournable pour les entreprises. Et à vos côtés, Rime Fourcade. Bonjour Rime.
Bonjour Jacqueline.
Très heureuse de vous accueillir à nouveau ce matin, Rime.
Merci.
Depuis 2018, vous êtes dirigeante de la société de transport routier de 2M Fret, une activité touchée de plein fouet par la crise énergétique. Et c'est ce que nous verrons ensemble dans quelques instants.
Tout à fait.
Merci et bienvenue à vous, mesdames, pour votre présence jusqu'à 11h dans nos studios. Cerise sur le gâteau, je vous propose de retrouver un homme qui prend en charge au moins la majorité des repas quotidiens et vient tous les mardis nous faire partager ses meilleures recettes. Je veux parler de Bruno Vigoureux, bien sûr, notre expert en bons petits plats. Bonjour Bruno, comment allez-vous aujourd'hui ?
Bonjour Jacqueline, bonjour à toutes et à tous. Ben écoutez, ça va pas trop mal.
Alors la répartition des tâches domestiques, c'est un vaste sujet, mais avec vous, pas besoin de négocier puisque vous adorez cuisiner et nous faire partager vos meilleures recettes.
Absolument.
Donc aujourd'hui, c'est quoi le menu ?
Bah, vous savez, là, il fait pas si froid que ça, mais il fait frais. Et voilà, de quoi on a envie dans une période comme ça ? Bah, de bons plats chauds, basiques, solides. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais emmené voyager dans les pays de Savoie pour un poulet à la tomme. Là, je reconnais que je ne vais pas faire dans l'original, mais plutôt dans l'efficace. On va se faire un bon pot-au-feu, mais pas n'importe lequel, un pot-au-feu aux trois viandes. Alors, autant vous le dire tout de suite, mais vous en doutez déjà, ce n'est pas le genre de plat qu'on fait pour deux. Alors là, on va être généreux, on va le faire pour six. Et s'il reste de la viande, vous pourrez parfaitement faire un hachis parmentier avec une purée de pommes de terre. Attention, c'est un plat qui demande 3 heures de cuisson. Prenez donc votre élan. Vous savez, c'est le genre de plat qui parfume une maison. Ça commence à sentir bon de bonne heure le matin. Le mieux encore, c'est de le faire la veille. Il vous faut compter une petite demi-heure de préparation. Alors, pour ce pot-au-feu aux trois viandes, il vous faut 1 kg de plat de côte, 1,2 kg de macreuse, un jarret de veau, deux os à moelle, six petits poireaux, six petits navets, six petites carottes, un demi céleri, une demi boule de céleri, un cœur de céleri branche, un fenouil, une tomate, un oignon, deux clous de girofle, une gousse d'ail, un bouquet garni, du gros sel et du poivre en grain. Alors on y va pour la recette. Pour commencer, vous nettoyez les poireaux et vous les liez en bottes. Vous préparez tous vos légumes, c'est-à-dire que vous les épluchez et afin qu'ils soient prêts à la cuisson. Vous dégraissez le plat de côte, vous le mettez dans une grande marmite avec l'oignon piqué de clous de girofle, l'ail pelé, le bouquet garni, une cuillère à soupe de gros sel et 6 grains de poivre. Vous couvrez d'eau et portez à ébullition en écumant régulièrement afin d'enlever les impuretés. Puis, vous laissez frémir une heure. Au bout de ce temps, vous ajoutez la macreuse dans la marmite, puis, 30 minutes après, le jarret et tous les légumes. Vous poursuivez la cuisson à petit frémissement, 1h30, en y ajoutant 40 minutes avant la fin, les os à moelle placés dans des mousselines pour qu'ils ne se vident pas. Vous égouttez les viandes, filtrez le bouillon. Ensuite, vous disposez les viandes et les légumes sur un plat de service chaud et vous arrosez d'une louche de bouillon. À propos du bouillon, j'ouvre une petite parenthèse. Vous pouvez faire, comme faisait mon grand-père, il faisait chabrouche. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette expression. Il s'agit juste de mettre un peu de vin dans le bouillon et porter votre assiette à la bouche. Voilà, je ferme la parenthèse, c'était une pensée émue pour mon grand-père. Vous sortez la moelle des os et vous la coupez pour mettre des rondelles sur des morceaux de baguette toastée. Vous parsemez de gros sel et vous servez en même temps que le pot-au-feu. Rien que ça, c'est déjà succulent. J'en salive à l'avance. Voilà, c'est presque terminé. Vous pouvez accompagner ce plat d'une vinaigrette tiède aux fines herbes avec un œuf dur grossièrement haché. Je vous le conseille parce que vraiment, ça apporte beaucoup au plat. Vous servez avec un vin de la vallée du Rhône, un Saint-Joseph par exemple, pour qui j'ai un faible particulier. Je vous assure, il ne pourra rien vous arriver de grave. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous régaler avec ce grand classique parfaitement de saison. Au revoir Jacqueline, bonne émission et la semaine prochaine.
Merci Bruno, vraiment une superbe recette. On a faim là. Moi aussi, je salive. Hein. Ça sent bon dans le studio.
Bon,
merci
parfait.
Beaucoup.
Au revoir,
Bruno.
Bonne émission.
Et puis en plus, vous nous avez donné le conseil pour le vin, donc un Saint-Joseph. C'est vrai que c'est un vin très agréable.
Surtout en ce moment.
À la semaine prochaine, Bruno.
Yes, madame.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, je reçois Danielle Dubrac, fondatrice et dirigeante du cabinet Sabine Mau à Saint-Ouen, présidente de l'UNIS, présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie de Seine-Saint-Denis et très impliquée au niveau associatif. Gania Selam, fondatrice et dirigeante du cabinet SAA Gestion, spécialisée dans l'externalisation de relance facture. Rim Fourcade, dirigeante de la société de transport routier 2M Fret. Et sans plus attendre, je me tourne vers vous, Danielle Dubrac. Alors Danielle, on sait que vous êtes très attachée au territoire de la Seine-Saint-Denis où vous vivez, vous avez longtemps exercé votre activité professionnelle de gérante du cabinet Sabine Mau. Je vous laisse vous présenter plus en détail auprès de nos auditrices et auditeurs.
Ben bonjour à toutes et à tous, ravie d'être là. Je suis Danielle Dubrac, voilà une étudiante qui est montée à Paris faire ses études et je me suis retrouvée en Seine-Saint-Denis très rapidement avec ma vie personnelle et professionnelle. Et ce qu'on fait quand on est étudiant, c'est qu'on veut être assez loin de ses parents, c'est pour ça que je suis montée à Paris depuis oui. La région de Carcassonne.
Ah oui, Carcassonne.
Voilà, et puis je me suis retrouvée là, ingénieure de formation, avec une belle entreprise qui s'appelait Thomson D'accord. Travaux Extérieurs, oui. Mais qui a vendu beaucoup d'activités, oui. Et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas l'immobilier. Je gérais, j'étais chef de projet informatique, donc pourquoi pas chef de projet dans un immeuble, on gère un projet, on gère la conservation d'un patrimoine, donc il y a y avait beaucoup de choses un petit peu analogues, mais il a fallu quand même se former sur le tard. Voilà, donc je suis ravie d'être là parce que j'aime beaucoup mon territoire avec les plus et les moins. J'habite le territoire, un quartier politique de la ville à Saint-Denis, et puis mon cabinet est sur Saint-Ouen, comme vous l'avez dit, administrateur de biens, administrateur de liens aussi, on dit souvent, puisque on touche à la vie des gens, les locataires, les copropriétaires, les propriétaires.
Oui, un métier dont je sais que vous a ajouté une vraie valeur comment affective. Hein, vous êtes très proche des gens que vous suivez.
C'est-à-dire quand on est comme ça présidente de syndicat professionnel, UNIS c'est un syndicat rassemble 50 000 professionnels qui sont des syndics de copropriété, des administrateurs de biens, des transactionnaires, des experts et des promoteurs innovateurs. Forcément, on est dans la vie des gens. Quand on s'occupe d'emploi et de logement, en l'occurrence là c'est le logement, on est dans la vie des gens, la proximité des gens, la proximité du territoire. Donc c'est important quand on s'installe sur un territoire, c'est d'avoir une intelligence territoriale, de travailler avec les entreprises du coin, que les salariés soient aussi attachés à l'entreprise, que les salariés ressemblent à nos clients, tout simplement, et comprennent nos clients et la problématique du territoire.
Et donc, alors vous avez, vous venez de le dire, en marge de cette activité de syndic de copropriété, vous êtes la présidente du syndicat UNIS. Vous avez même renouvelé votre mandat, je crois, de président.
Encore,
non, pas encore.
Le mandat se termine en juin.
Bon,
nous verrons
les
adhérents diront.
Très bien. Et ce matin, vous vouliez nous parler de ces problèmes de crise énergétique, mais il y a aussi la rénovation énergétique, la loi climat et résilience. Enfin, il y a beaucoup de choses qui touchent ce domaine.
Il y a beaucoup de choses, et au niveau des chambres de commerce, il y a un numéro vert pour comprendre les dispositifs d'aide. Que ça soit sur le bouclier tarifaire gaz ou le bouclier tarifaire électrique, enfin tout ce qui est lié à l'électrique, puisque les factures de gasoil ou de gaz ou de réseau de chaleur ont augmenté dans certains cas jusqu'à 40%. Donc forcément ça pèse sur les habitants de logements, mais ça pèse aussi sur les entreprises. Donc surtout renseignez-vous, parce qu'il y a tellement de cas de figure en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction du type d'abonnement que vous avez, que ça soit du gaz ou de l'électricité. Il faut se renseigner. Donc évidemment, on est dans ce souci-là. Alors, il y a eu la crise Covid, sur la partie, je dirais, syndicat professionnel et chambre de commerce, on a beaucoup aidé, expliqué les aides, et franchement, l'État a beaucoup aidé. Et puis maintenant, on est dans une crise énergétique, donc c'est pareil, les dispositifs. Sur la partie logement, on a la loi climat et résilience, comme vous le dites, qui permet qui nécessite des travaux de rénovation à faire, parce qu'autrement, quand vous êtes propriétaire bailleur privé, vous pourrez plus louer vos logements dès maintenant sur les grosses passoires thermiques. Et puis en 2025, c'est là où on risque d'avoir la catastrophe, puisque comme on produit plus de logements neufs et qu'on pourra plus avoir une offre locative privée et que le parc social est saturé, en France, il y a 13 millions de locataires, et il y a à peu près 70% de ces locataires qui sont éligibles au logement social. Donc en gros, ça fait 8 millions de personnes. Il n'y a que 5 millions de logements chez les bailleurs sociaux. Ça veut dire qu'il y a 3 millions de locataires qui sont logés par des bailleurs particuliers privés. Donc c'est vraiment celui-ci qu'il faut aider, d'autant plus qu'il a quand même des obligations de faire des travaux tant au niveau des parties privatives que communes. Et souvent, ce qu'on dit, les chambres de commerce le disent aussi, faites votre diagnostic de performance énergétique, que vous ayez un bâti logement ou un bâti immobilier, pour savoir un petit peu où vous en êtes. Et puis surtout pour faire des travaux d'isolation, donc gagner en économie d'énergie. Et puis aussi quand même, quelque part, dans notre conscience écologique, c'est gagner aussi en CO2.
Oui,
parce qu'on va économiser du CO2 si on fait des travaux, tout simplement.
Là, vous soulevez un problème, parce que je crois que peu connaissent la classe énergétique de leur logement.
Écoutez, ils peuvent déjà aller, s'ils sont des particuliers qui nous écoutent, ils peuvent aller sur le site de notre syndicat, unis-imo.fr, et puis bien sûr les professionnels, s'ils passent par des professionnels, ce sont des tiers de confiance. C'est important de passer par un professionnel, parce que c'est compliqué aujourd'hui de louer. Un particulier ne pourra plus louer, il y aura une interdiction et des sanctions, et donc les professionnels savent tout ça, et peuvent les renseigner, y compris si on est face à un logement passoire énergétique, pour pouvoir faire des travaux dans ce logement, voire peut-être dans la collectivité. Mmh. Et là, c'est compliqué, les décisions en habitat collectif, en copropriété. Mais embarquer tout le monde vers la rénovation, ça, les professionnels savent faire. Et vraiment, il faut se renseigner parce que c'est très complexe. Oui. Mais aussi, il y a des sanctions, puisque vous ne pouvez plus louer si vous êtes dans une mauvaise étiquette. À peu près 30% des logements, en 2025, ne pourront plus être loués dans le parc privé. Oui. Donc, c'est quand même un peu catastrophique.
Oui, et là aussi, vous me tendez une perche, puisque je crois savoir que les assemblées de copropriétaires ne permettent pas toujours de valider les décisions importantes.
C'est compliqué. Vous avez aussi la notion de diagnostic de performance énergétique dans le logement. Et puis après, dès maintenant, voter des plans pluriannuels de travaux, donc il faut les préparer, avec un DPE, donc un diagnostic de performance énergétique de l'enveloppe collectif. Et là, on ne sait pas trop si les étiquettes sont différentes, comment conseiller. Bon, les pouvoirs publics sont interpellés là-dessus, y compris sur la méthode de calcul, parce que ça défavorise les petits logements. Enfin, c'est très technique, tout ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment passer par les professionnels qui sont des tiers de confiance et qui peuvent embarquer cette rénovation. Aussi, beaucoup d'aides existent, individuelles ou collectives. Et donc, c'est dommage de passer à côté, puisque je pense qu'après, il n'y en aura plus du tout. On peut pas sans arrêt être aidé. En tout cas, c'est quand même très compliqué, puisqu'on doit aller vers la décarbonation et vers le carbone, la neutralité carbone d'ici 2030 et 2050. Donc, on est tous dans la même galère. Donc, autant aider. Les chambres de commerce aident sur les dispositifs, que ça soit des professionnels, des entreprises qui sont locataires ou propriétaires de leurs biens. Et puis, UNIS, évidemment, aide les occupants.
Est-ce qu'on peut dire que tous les voyants sont au rouge là en ce moment dans ce domaine?
Ce qui peut nous préoccuper, c'est effectivement cette difficulté énergétique peut faire fermer des entreprises. Donc ça, c'est vraiment très inquiétant, surtout si vous n'êtes pas dans l'aide, puisque vous savez, quand c'est moins de 10 salariés, donc si vous en avez 12, bon, il y a des boulangers aujourd'hui qui sont dans cette catégorie, de puisqu'ils ont ouvert plusieurs boulangeries, donc du coup ils sont pas dans un certain type d'aide ni dans l'autre. Bon, il y a des difficultés. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est quand même la crise sociale par rapport au nombre de logements qui vont être interdits. Comment est-ce qu'on va faire? Demain, il y a le rapport de la Fondation Abbé Pierre qui va sortir. Et j'espère qu'il y aura moins de 12 millions de gens mal logés comme précédemment. J'espère qu'il y en aura moins que le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre. Nous verrons.
Oui, et parce que ce qui vient se greffer aussi, c'est il y a l'augmentation des prix, et puis il y a les prêts immobiliers qui sont en train de changer. Enfin, il y a tout un...
Absolument, c'est vrai. Il y a le taux d'usure. Hein, c'est la valeur maximum auquel les banques peuvent prétendre prêter aux gens, donc qui augmente. Heureusement, il y a une bonne nouvelle. Maintenant, ça va être des revalorisations mensuelles et non pas trimestrielles. Et puis il y a les prêts qui augmentent. Effectivement, on est peut-être à 3,5% aujourd'hui sur 20 ans. Donc attention, les prix vont peut-être baisser aussi, on pense de entre 8 et 10% globalement sur le territoire. Pourquoi? Parce que il y a cette histoire d'étiquette. Vous avez des obligations d'afficher le fameux diagnostic de performance énergétique qui est sous la forme d'une étiquette, favorable ou pas. Ah, c'est super, c'est catastrophique. Et donc cette étiquette donne des renseignements aux gens, qu'ils soient acquéreurs ou locataires, pour la location. Et donc, du coup, ça fait forcément baisser les prix. Mais ce qui compte, c'est quand même de rénover. C'est pas de vendre avec une mauvaise étiquette. Parce que le problème va...
À tout va.
Le problème va être rapporté sur une autre... reporté sur une autre personne, sur l'acquéreur, qui aura toujours des problèmes. Et de toute façon, la crise énergétique, elle est là. À mon avis, elle est durable. Donc, du coup, autant faire des travaux.
Alors, en tant que présidente de l'UNIS, vous rencontrez bien sûr le ministre du Logement. Que dit-il de tous ces... Parce que vous êtes sur le devant de la scène pour l'informer de tous ces problèmes.
On écrit, on revendique. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on ne touche pas trop à la profession en ce moment. Ce n'est pas le moment. Il y a des réflexions sur notre réglementation qui s'appelle la loi Auguet. Olivier Klein est une personne que nous estimons beaucoup au niveau des professionnels. Bon, moi, évidemment, je suis de la Seine-Saint-Denis. ville et de la Seine-Saint-Denis, les choses qui se sont passées à Clichy-sous-Bois, Montfermeil, sont extraordinaires en matière de rénovation urbaine. C'est au moins une personne qui a peut-être pas tous les pouvoirs en main, puisque je pense que c'est plutôt Bercy. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait réclamé un ministère de plein exercice, puisque Bercy arbitre sur tout, et c'est très compliqué. Mais c'est un homme qui connaît nos professions et qui apprécie nos professionnels, même si je pense qu'il peut pas tout faire et tout régler aujourd'hui. Bon, alors après, on demande à ce qu'il y ait surtout des aides complémentaires, aider le reste à charge. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des travaux, vous avez une quote-part, vous avez des aides, et puis donc ce qui reste, c'est ce qu'on appelle le reste à charge, ce qui reste à payer.
Oui.
Et on demande à ce que ce reste à charge soit le plus fort possible, que ça soit un propriétaire ordinaire ou un propriétaire en précarité énergétique.
Oui, l'important, c'est qu'il puisse faire remonter vos informations à Bercy.
Il fait remonter, c'est un homme loyal, c'est un homme qui sait, qui connaît notre métier, qui nous a jamais critiqué dans le mauvais sens, mais est-ce qu'il a des pouvoirs? Je suis pas sûre, sincèrement. En tout cas, c'est un homme loyal et sincère et engagé, comme on peut l'être quand on est présidente de chambre de CCI ou d'un syndicat.
Complètement. Alors, vous nous avez dit vous avez donné quelques informations de la CCI 93. Nous, ici, nous parlons très, très régulièrement de la Chambre de commerce et d'industrie du 95. Pour une fois, on va lui faire quelques infidélités. Donc là, en revanche, c'est bien votre deuxième mandat en tant que présidente.
Ça, c'est vrai.
Oui,
ça,
voilà,
c'est vrai.
J'avais confondu tout à l'heure.
Oui.
Et c'est quand même très prenant aussi d'être
C'est prenant. Une chambre de commerce, une chambre de commerce, ça représente, c'est un établissement public administratif qui est dirigé par des chefs d'entreprise dans l'industrie, dans le commerce et dans le service, et on est là pour défendre finalement les chefs d'entreprise dans toutes
dans
toutes les composantes, que ça soit la création, la transmission, le développement, la réglementation. Donc c'est intéressant que ça soit dirigé par des chefs d'entreprise, parce que qui peut mieux parler à un entrepreneur qu'à un autre entrepreneur? Et donc on défend les textes auprès des pouvoirs publics. C'est ça l'idée d'une chambre de commerce. Et puis je pense que quand vous êtes vous voulez peut-être vous développer, vous voulez vous créer, vous êtes porteur de projet, faites-vous aider par les chambres de commerce. Il y a des actes qui sont gratuits, d'autres qui peuvent être évidemment en accompagnement payant, mais la globalité, en tout cas les dispositifs d'aide sont expliqués de façon gratuite grâce aussi aux préfectures qui ont relayé des webinaires, des documents, etc. Donc ces chambres de commerce, on est utile à son territoire et on est utile à ses pairs.
Oui, on l'a bien vu pendant la crise sanitaire, que les chambres de commerce c'était très mobilisé pour tous les jours. Elle donnait des messages de dispositifs et d'aide, en effet. Ouais.
Et puis il y a aussi le recrutement, parce que la Chambre de commerce, on parle du 93 et du 95, mais c'est dans un écosystème de la Chambre de commerce de région. Et nous avons, bien sûr, on fait beaucoup de formations continues ou de formations initiales, que ce soit en apprentissage ou pas, vers des professions qui ont demandé que des diplômes soient faits pour elles. Donc il y a des filières qui sont présentées, qui sont professionnelles, technologiques ou commerciales. Et puis bien sûr, on délivre des diplômes de l'éducation nationale. C'est quand même le deuxième organe de formation après l'éducation nationale, Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. N'hésitez pas, renseignez-vous, il y a des sites.
C'est important.
Et puis il y a tout simplement des chefs d'entreprise comme Pierre Cuchely, président de la CCI 95, ou moi-même, qui sommes à la disposition de tous ceux qui veulent. Il suffit de nous envoyer un mail ou sur nos portables, on sera, le relais.
Vous êtes disponible.
On est disponible parce qu'on est tous dans le même écosystème économique, avec les difficultés qu'il y a aujourd'hui. On peut pas le nier.
Oui, surtout, mais on a bien compris que vous donniez de votre temps et de votre indéfectible envie d'être utile à la cause entrepreneuriale et puis au territoire, qui compte beaucoup pour vous.
Nous, quand on est sur un territoire, on y habite, vit, et merci d'ailleurs à tous ceux qui nous ont aidés. On travaille bien avec les établissements publics territoriaux, avec le conseil départemental, qui aide beaucoup pour l'insertion par l'emploi, que ça soit pour aider les entreprises à répondre aux clauses sociales, ou que ça soit tout simplement pour engager des personnes du territoire. Donc on est vraiment dans un,
dans un
groupe où public privé s'entendent quand il s'agit de concertation sur des projets, les Jeux Olympiques par exemple, Paralympiques de 2024, où il y a beaucoup de choses qui se passent en Seine-Saint-Denis grâce aux ouvrages qui sont construits grâce au village olympique. On est vraiment dans un circuit collectif, je pense à la Fabrique des Jeux par exemple récemment, voilà, on est là dedans.
Alors, comme ça ne vous suffit pas et que vous êtes très engagé dans le milieu associatif, vous avez aussi, j'ai vu que vous aviez été président de l'école de la deuxième chance.
Oui.
Et puis vous avez présidé la délégation 93 des femmes chefs d'entreprise, des actions qui vous tiennent à cœur.
À l'école de la deuxième chance du 93, c'est formidable. D'ailleurs, ça avait été créé par Georges Guilbert, qui est un président de chambre qui est malheureusement décédé depuis. Et donc ça, c'était une volonté de dire, il y a des gens qui ont raté l'école. Et donc, l'école de la deuxième chance, c'est une école pour les gens qui ont raté l'école, tout simplement. Donc, il faut pas avoir le brevet des écoles. Et on s'aperçoit que finalement, les personnes qui viennent là ont un contrat avec une entreprise et on est capable de leur faire des bilans de compétences et puis d'aller vers un emploi, tout simplement. La sortie positive de ces écoles, qui sont des il n'y a pas de référentiel, hein, chacun apprend à son rythme, à travers le français, l'économie, les mathématiques, la connaissance du monde. Chacun vit un peu à son rythme et on s'aperçoit que finalement la sortie positive, elle est réelle, puisqu'il y a plus de 60% de personnes qui sortent qui reviennent en formation à travers des CFA, soit tout simplement qui ont trouvé un emploi dans les entreprises qui, heureusement, les accueillent pour faire des stages de connaissance de telle et telle filière.
Oui. On sait que c'est une école qui est très, très concrète et qui a de beaux résultats.
L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de notation, système de notation. Il y a surtout une personne qui suit.
Des appréciations.
Il y a une individualisation de la relation entre le stagiaire, ce sont des stagiaires de la formation professionnelle, et le formateur. Voilà. Et donc, du coup, à la fin de cette école, ils ont une attestation de compétences, de choses qui sont acquises. Point final.
D'accord,
donc ce sont des certificats qui ont des dimensions différentes en fonction de ce qui a été acquis. Et surtout, c'est qu'ils reprennent confiance. Parce que souvent, j'avais l'impression d'être des cancres, alors que c'était pas du tout
oui,
le cas.
Parce qu'ils n'étaient pas dans une
non-adaptation au système scolaire et aux personnes.
Et alors, parlons un petit peu des femmes chefs d'entreprise, dont vous avez été, je l'ai dit, la présidente à une certaine époque, et puis vous êtes toujours adhérente, bien sûr. Je pense que vous êtes également très engagée dans cette association de femmes.
Alors, on est engagé et les chambres de commerce sont engagées. Le mouvement FCE, Femmes Chefs d'Entreprise, est engagé. Il existe depuis 1945, hein, vous le savez, Jacqueline. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir discuter avec des femmes qui ont des parcours, soit en début de parcours, soit qui veulent transmettre leur entreprise. C'est de discuter de la façon dont on peut manager une entreprise et surtout d'être solidaire, de parler de bonnes pratiques. Et en ce qui concerne les femmes chefs d'entreprise, le but de cette association, c'est de pouvoir être plus représentative en tant que femme chef d'entreprise dans les instances économiques,
dans
les mandats. Donc ça va être la chambre de commerce, les chambres de métiers, ça va être à l'URSSAF, ça va être au tribunal de commerce, ça va être au prud'homme, etc. Donc c'est l'idée, c'est ça, puisque malheureusement on n'est pas assez représentative, même si les femmes chefs d'entreprise représentent à peu près 25% en matière de création et d'entreprise, ce qui est peut-être pas beaucoup par rapport à la population féminine, mais bon, on y arrive. Et donc c'est intéressant de se concerter, de regarder un peu comment les unes et les autres affrontent des difficultés. Il y a une solidarité, une convivialité et un engagement de chacune des membres de ces associations.
Et on peut peut-être dire aussi, nous le disons souvent par rapport à tous ces réseaux qui existent, que ça permet de rompre l'isolement du chef d'entreprise.
Ça, c'est très important.
Et c'est très vrai. Hein,
L'isolement, c'est très important. Oui. Au niveau des chambres de commerce, il y a deux initiatives. Au niveau de la CCI 93, on a décidé de regrouper tous les réseaux qui sont pas forcément de nature identique, mais le noyau dur, c'est quand même qu'il y a des dirigeantes. Voilà. Et donc, elles sont là parce qu'elles ont décidé l'idée de créer leur business ou de rebondir après un problème personnel ou professionnel. Et donc ça, la Chambre de commerce va agglomérer tous ces réseaux qui existent dans les départements. Ça, c'est la première initiative. Récemment, d'ailleurs, on a fait un événement avec les FCE, mais il y avait d'autres réseaux. Et puis, le 14 mars, je tiens à en parler parce que ça se fait dans toutes les FCE, les chambres de commerce qui le veulent. D'ailleurs, ça se fait à la CCI 95. Oui. On organise avec 100 000 entrepreneurs. 100 000 entrepreneurs, c'est pour les collégiens et les lycéens, pour leur expliquer ce que c'est que d'entreprendre. C'est pas que être chef d'entreprise, mais entreprendre un projet. Voilà le mot entreprendre. Et 100 000 entrepreneurs, les femmes chefs d'entreprise et les CCI organisent le matin une réunion avec des collégiens et lycéens. 100 000 entrepreneurs fait venir ces lycéens avec des lycées qui jouent le jeu. Et il y a des femmes qui expliquent leur parcours tout simplement, oui, avec les embûches, avec les joies, avec les atouts, les faiblesses de tel parcours. C'est absolument magnifique. Ah, et oui, ça se fait dans 80% des chambres de commerce en France.
Donc ça se fera dans votre chambre
de commerce également.
Le 14 mars au matin.
Voilà, très venez bien à Bobigny et vous verrez des collégiens du coin. Ce sont des collégiens du département. C'est souvent ou de Bobigny ou d'Aulnay, oui, ou de, oui, Drancy, oui, enfin, oui, peu importe. Voilà.
Très bien, bah écoutez, c'est l'information qui sera relayée sur IDFM Radio.
Et ces jeunes ne sont pas indifférents au parcours expliqué, les beaux parcours des femmes qui sont là, et surtout qu'elles parlent vrai. Je, oui, voudrais le dire, c'est très important, elles parlent vrai, voilà. C'est du vécu, on est beaucoup dans l'affectif, dans le déroulé, on se dévoile, et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est ce qui plaît finalement aux jeunes et aux autres femmes chefs d'entreprise.
Danielle Dubrac, on vous sent très épanouie, je suis très admirative de votre parcours parce que vous gardez le sourire, vous êtes calme, même si vous me dites que c'est une façade peut-être, ce calme. Si vous aviez des besoins à exprimer, quels seraient-ils, Danielle Dubrac ?
Eh bien, faites-vous aider. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez de rompre l'isolement. Je crois que c'est important. Quand on est chef d'entreprise, il faut se faire aider. Qu'on ait 20 ans d'expérience ou 2 mois d'existence, faites-vous aider. C'est très important. Je crois beaucoup à l'effet réseau. Et je crois beaucoup à l'effet synergie, voilà, tout simplement. Et puis en plus, on est dans un territoire, donc autant profiter du territoire, de ce qui se passe au niveau du territoire, de ce qui est le service aux entreprises, les services aux habitants et aux particuliers. Quand vous êtes effectivement un propriétaire, un locataire ou un copropriétaire, passez par les professionnels. Ne le faites pas tout seul, c'est compliqué. Et puis vous passeriez peut-être à côté de dispositifs, tout simplement.
Oui, d'informations qui sont à portée de main, finalement, si on prend le temps de les connaître. Merci beaucoup, Danielle Dubrac, pour votre intervention. Et puis encore félicitations pour vos valeurs de solidarité, transmission du savoir et réussite pour tous. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Un peu de musique avant de continuer ces parcours de femmes chefs d'entreprise hors normes. À tout de suite.
So cold, comfort, come for me. It's 3 a.m. on feverly. Help me die to heal my pain, 'cause I don't really want no Mary Jane. Oh la la la, et si le problème était moi? Si j'ai mal, c'est du mal à parler. Oh, quand on aime, si le dire est un problème, finir seul, faut pas s'étonner. We'll keep it simple. Ooh, doctor. Ooh, we'll keep it simple. Ooh, you're the only medicine I've been taking. We'll keep it simple, baby. Emmurer nos émotions. Les gens le font. À la fin, au fond, tout ça fait qu'on a mal, on a l'âme en chantier. Ooh la la la, from my chimney to my jar, every bone and every part of me's aching. Won't you, can't you see, got your bridge to get to me, any medicine you give me, I'm taking. We'll keep it simple. doctor. We'll keep it simple. You're the only medicine I've been taking. We'll keep it simple, baby. Keep it simple, baby.
Again.
Keep it simple, baby.
Keep it simple, par le duo Vianney-Mika. Vous êtes bien sur IDFM Radio et c'est l'économie en direct. À mes côtés ce matin, Danielle Dubrac, fondatrice et dirigeante du cabinet Sabimo, présidente de l'UNIS, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du 93 et très impliquée au niveau associatif. Gania Selam, fondatrice et dirigeante du cabinet SAA Gestion, spécialisée dans l'externalisation de relance facture. Rim Fourcade, dirigeant de la société de transport routier 2M Fret. Et on enchaîne avec vous, Gania Selam. Alors Gania, vous êtes de formation comptable et en 2013, vous avez décidé de créer votre entreprise. Racontez-nous un petit peu votre parcours et puis ce qui vous a poussé à franchir ce cap.
Oui, bonjour Jacqueline.
Bien en face du micro, Gania.
Oui, bonjour Jacqueline et bonjour à tous nos auditeurs. Donc, effectivement, j'ai pas commencé à travailler en janvier 2013.
Non.
J'ai eu une carrière de salarié bien avant, 20 ans. Et j'ai travaillé dans un grand groupe dans lequel le hasard a fait que j'ai géré un service de recouvrement. Et c'est à l'issue de cette expérience très enrichissante que j'ai décidé, pour des raisons aussi personnelles, de monter mon entreprise et de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale.
Très bien, oui. Vous aviez quand même peut-être noté des manques ou des actions qui ne vous correspondaient pas et c'est ce qui vous a donné aussi envie de créer l'entreprise.
Disons que j'avais toujours ce chose
souhait
en moi.
C'était une évidence,
voilà,
pour vous. Oui.
Je cherchais l'idée en fait.
Oui.
C'était l'idée qui me manquait. Du coup, après ma formation de comptable, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocat. J'ai travaillé dans diverses sociétés et c'est vrai que le grand groupe informatique m'a donné l'opportunité de gérer pendant plusieurs années et de créer le service et d'adapter des process, etc. J'étais quand même très autonome. Ensuite, j'ai senti aussi le besoin des entreprises. Il y avait un marché. J'ai fait une étude de marché, etc. Et j'ai senti que l'idée était là.
Pouvait être valable.
Voilà, ouais. Et que je pouvais me lancer. Alors, forte de cette expérience, voilà. Donc j'ai sauté le pas. Je me suis aussi formée tout de même à la gestion d'entreprise. J'ai rencontré des chefs d'entreprise au travers de clubs d'entrepreneurial qui avaient dans la région du Val-d'Oise. Il y en a beaucoup. Voilà.
Oui, vous n'êtes pas improvisé du jour au lendemain.
Non, c'est pas mon genre.
Oui.
Donc j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté. Voilà, il fallait aussi avoir un peu d'argent, donc ça avait été aussi anticipé. Voilà, et l'idée germant petit à petit voilà, en janvier 2013 je suis rentrée dans une structure justement qui accompagne les créateurs d'entreprises.
Oui.
Parce que l'immatriculation elle a eu lieu plutôt en 2014.
D'accord.
Mais le projet, la recherche recherche des clients, tout ça, la prospection, elle a commencé en janvier 2013.
C'est ça, vous avez suivi les conseils de Daniel Dubrac
La
CCI, rejoignant des réseaux.
Oui. Tout ce dont a parlé Madame Dubrac me parle beaucoup, parce que j'ai utilisé effectivement tous les outils proposés par la CCI du Val d'Oise, le réseau Plateau,
oui,
par exemple,
oui, que nous connaissons bien,
extraordinaire. Oui. C'est parce qu'aujourd'hui j'ai plus tellement le temps, vu l'activité importante que nous avons, mais c'est un réseau qui m'a vraiment plu, et dès que possible j'y retournerai, je me réinscrirai, même après 10 ans d'activité, ça c'est toujours enrichissant.
Je pense qu'ils seront ravis de votre témoignage.
Voilà.
Alors Gania, votre activité, c'est le recouvrement contentieux de factures impayées, recouvrement amiable également de factures impayées, audit des postes clients. Expliquez-nous tout ça.
Alors, notre cabinet propose en fait aux entreprises, d'une manière externalisée, une prestation de recouvrement amiable, qui est plus de la relance en masse de factures, qui sont pas forcément en litigieuses ou impayées.
Oui, des gens qui payent pas à l'heure dite.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle credit management, en version anglaise. Donc on intervient en marque blanche, c'est-à-dire que la personne, le débiteur ne sait pas que c'est un prestataire qui le relance. Et ça a beaucoup de succès. Dans tous les cas, ça représente 50% de notre activité. Il n'y a pas de phase contentieuse dans l'immédiat, et c'est seulement après on va identifier les dossiers qui méritent d'aller plus loin, et qui basculent donc cette fois en marque SA gestion. On va relancer le débiteur en direct, avec notre mise en demeure, avec notre en-tête, nos relances téléphoniques, email personnalisées. On envoie des SMS, etc. Vraiment, on va suivre le débiteur le plus près possible pour créer un lien avec lui, un lien de confiance, pour qu'il comprenne qu'on n'est pas là non plus pour le sanctionner, mais on est là pour l'aider, pour l'accompagner à régler ce problème qu'il a de dette envers un créancier. Et on propose des échéanciers, et on propose vraiment une solution avant d'en arriver
de parler de sanctions.
C'est ça. Et seulement lorsqu'on a un mauvais payeur en face de nous. Donc là, par expérience, on le sent rapidement. On va faire une injonction de payer. Donc auprès du greffe, du tribunal de commerce, du débiteur, et obtenir une décision qui nous permette d'exécuter cette fois le paiement via un huissier. Et je peux dire qu'aujourd'hui, les huissiers, chez nous, ça représente vraiment 10% de notre activité. On arrive
80% à gérer avant.
À solder amiablement. Il y a 10%, ça va être des échéanciers, etc. Et les 10% autres, ça passe par un huissier.
Une action qu'on retrouve aussi peut-être avec vous, Daniel Dubrac, l'action des huissiers, ça fait partie de votre métier.
Oui, absolument. Les huissiers sont des partenaires, puisque les huissiers, malheureusement, délivrent des pluissiers, des commandements de payer ou des injonctions de faire ou de donner des documents ou de payer. Et puis, ils font des constats aussi, quand il y a des effondrements ou des choses comme ça. Donc, c'est important, ce sont des partenaires. Notre syndicat a signé un partenariat avec les huissiers. Et puis, ils font aussi le métier d'administrateur de biens de façon accessoire, uniquement quand c'est accessoire. Ils ont cette possibilité-là. Donc, du coup, ils connaissent le métier, ils ont besoin de rentrer dans les parties communes d'immeubles. Et puis, ils peuvent collecter des données, et ça peut nous éviter de faire une procédure inutilement, puisque par la collecte des informations du débiteur, on arrive peut-être après une phase amiable gérée par vous, madame.
Les huissiers sont importants, effectivement, dans le recouvrement. Ils nous aident énormément aussi. Ce sont aussi des partenaires pour nous. On a un réseau au niveau national d'huissiers avec lesquels on travaille régulièrement. On crée aussi, effectivement, une proximité avec eux pour gérer au mieux, dans l'intérêt du créancier, qui est notre client.
Oui. Avec la crise, ce phénomène d'impayé a dû s'accentuer.
Tout à fait. On commence à le sentir là depuis décembre. Je pense qu'on a de plus en plus de PME parce que je travaille beaucoup avec les entreprises, les débiteurs professionnels,
oui.
Peu de particuliers. Et il y a de plus en plus de restaurants. Des créanciers qui nous envoient des dossiers pour des restaurants qui rencontrent des difficultés. Il y a même, on commence à avoir des sociétés dans l'industrie aussi qui ne peuvent pas payer pour des raisons de trésorerie et qui sont jusqu'à présent tout à fait honnêtes, qui ont toujours payé et voilà, chose qu'on n'avait pas systématiquement avant. Maintenant, c'est peut-être un début. Il y en a pas non plus. C'est pas une explosion pour l'instant.
Bon,
mais il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres.
Bien sûr.
Voilà, on a surtout aujourd'hui des surtout dans notre partie marque blanche, on a beaucoup de soucis qui sont liés à notre environnement qui évolue. L'automatisation des factures et la loi à partir du 1er juillet donc 2024 qui impose la dématérialisation des factures. Donc ça c'est en interne l'évolution qui nous demande un effort un peu d'adaptation et de formation en interne pour s'adapter et anticiper le 1er juillet 2024.
Daniel, vous voulez intervenir?
Oui, parce que je rebondis sur les propos de madame. Il faut savoir que l'URSSAF a redémarré les recouvrements, donc ça peut aussi aider dans les difficultés d'impayer des entreprises.
Oui.
Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, on est revenu aux mêmes quantités de défaillances d'entreprises qu'en 2019, alors qu'on était très très bas pendant la période Covid et
ça a augmenté, oui.
Et puis, je voulais dire que, associé à la démarche amiable que fait madame, vous avez au niveau des chambres de commerce un monsieur ou une madame prévention des difficultés d'entreprise. Il faut absolument aller les voir parce qu'ils vont vous conseiller dans la confidentialité et parce qu'il y a aussi des démarches où on peut aller voir le tribunal de commerce pour anticiper.
Une médiation.
Anticiper. Oui. Voilà, c'est important de le dire et je pense que madame est au courant de tout bien évidemment. Mais ça existe. Les tribunaux de commerce ne sont pas là pour faire de la défaillance systématiquement, faire du dépôt de bilan systématiquement. Et dans les chambres de commerce, il y a des gens qui aide à cette prévention et aussi pour le moral du dirigeant. C'est très important parce que le dirigeant, il est à prendre à la petite cuillère quand il a des difficultés d'impayer.
Non, mais vous avez complètement raison de préciser ça. Le tribunal de commerce met l'accent, en tout cas celui de Pontoise, met l'accent sur cette prévention pour effectivement ne pas prononcer la liquidation si c'est possible, bien sûr.
Oui, il y a un service médiation, il y a un médiateur.
Oui, complètement.
Et je pense qu'il y en a dans toutes les CCI. On le conseille. On le conseille quand c'est nécessaire. Cependant, les dirigeants, quand ils sont dans cette situation-là, malheureusement, ils répondent plus. Voilà, moi, j'ai des dossiers où on a la secrétaire, on n'arrive même pas à les toucher parce que justement, ils doivent s'isoler ou ils doivent être tellement mal à l'aise parce qu'ils ont eu quand même une expérience où ils ont pu gérer honnêtement leur entreprise et payer leurs fournisseurs. Et aujourd'hui, c'est très désagréable pour ces dirigeants-là de se retrouver dans la situation de mauvais payeurs.
Bien sûr,
Qu'ils n'ont pas prévu ça dans leur carrière. Et nous, les cabinets de recouvrement, donc quand on arrive à toucher le dirigeant, effectivement, on le conseille quand même d'aller dans la médiation, dans l'échéancier. On essaie vraiment de faire des échéanciers. On arrive à faire passer des échéanciers très larges.
Oui.
Il y a par exemple un dossier, je crois, 25 euros par mois sur 2-3 ans. Mais voilà, on s'est adapté à la capacité de remboursement de l'entreprise.
Oui, bravo pour cette adaptation, en effet. Gania, vous nous avez parlé donc de cette dématérialisation des factures et puis aussi l'automatisation. Vous voulez en dire un mot parce que ça à votre niveau, ça crée, enfin, vous, il y a des erreurs humaines, et vous êtes là pour les rectifier.
Ben, exactement. C'est-à-dire que chez nos clients, en fait, qui sont des ETI, des PME, principalement du Val d'Oise, il y a donc cette évolution technique qui leur impose donc d'automatiser leur process, d'automatiser leur métier. Et parallèlement à cela, donc ça, ils sont quand même assez préparés. Donc là, on est assez habitués. Il y a beaucoup d'erreurs humaines qui sont faites. Et nous intervenons en marque blanche pour rectifier cela et augmenter les rentrées de trésorerie. On diminue ce qu'on appelle le délai moyen de paiement de l'entreprise par ses actions préventives et correctives. Et en plus, on améliore l'image de marque de nos clients parce qu'il y a toujours une proximité avec le débiteur.
Oui, vous créez un vrai lien.
Voilà, il y a un retour. Et à côté de ça, parallèlement, donc il y a une nouvelle disposition qui est la dématérialisation qui s'est enclenchée il y a quand même déjà depuis 2-3 ans et qui devient obligatoire à partir du 1er juillet 2024 où la facture papier doit disparaître. Donc ça impose aux sociétés déjà d'investir dans un outil dans une interface. Ce sont des plateformes de dématérialisation partenaires. C'est l'équivalent de Chorus.
Oui.
Je ne sais pas si vous connaissez, oui. Chorus au niveau public.
Oui.
Pour les entreprises privées. Donc, qu'est-ce que ça traduit chez nous ? C'est qu'il y a de plus en plus de plateformes de dématérialisation partenaires, chacune avec son process. Donc aujourd'hui, si on avait un chemin pour atteindre le débiteur, ou deux, ce qui était le téléphone, le mail, le courrier, aujourd'hui, il va y avoir autant de chemins que de plateformes.
Il n'y a pas de standardisation dans ces,
pour l'instant,
dans ces process.
Pour l'instant, non.
Non.
Donc nos clients, déjà, ont un souci pour former en interne à cette mise en place de la plateforme. Et nous, on récolte...
Oui.
Les erreurs,
les
et
erreurs
on traite,
humaines,
on rectifie,
ouais.
Et on est tenu en qualité d'expert, parce que nous, tous nos collaborateurs sont des experts, c'est ce qui apporte une valeur ajoutée à nos clients. On est tenu de se former, d'anticiper et d'apprendre rapidement de ces erreurs-là. Pour en faire notre plus-value.
Oui, bien sûr, bien sûr, c'est la. Oui, oui, c'est vraiment la valeur ajoutée de votre entreprise. Mais c'est ce qui fait aussi que votre cabinet marche bien, parce que vous avez un vrai sérieux et une vraie proximité avec entre vos clients et puis leurs propres clients.
Je l'espère en tous les cas.
Oui,
on fait notre maximum. On aime ce que nous faisons. On est dans le recouvrement, ça peut paraître rébarbatif, mais en fait, on est quand même dans la relation, dans la relation commerciale, dans la relation client. On le prend plus dans ce sens-là. Et l'image de marque de nos clients et la nôtre sont importantes, sont prioritaires. Et la qualité, forcément.
Bien sûr.
Et notre différence.
Bien sûr. Je voudrais m'adresser à Daniel Dubrac et puis Rim Fourcade. Vous faites vous-même appel à des cabinets comme celui de Gagna Selam, Rim,
ou... Moi, non, pas pour le moment.
Vous n'avez pas besoin. Et vous,
non.
Daniel, non plus.
Non, parce que si on faisait appel, qui paierait la facture? Alors, on a des difficultés comme ça sur la dématérialisation. Merci en tout cas de cette alerte, parce que ça vient vite, hein, le mois de juillet 2024.
Tout à fait.
Et nous, au niveau de la réglementation dans l'immobilier, il va falloir faire des modifications puisque le côté numérique n'est pas encore prévu dans certains textes. Voilà. On a alerté, mais après les outils, bon, les systèmes d'informatique dédiés. Aux professions sont des fois ont déjà de ces plateformes en interne, mais merci en tout cas pour ce message important.
Oui.
Il faut s'organiser.
C'est, en tous les cas, nous on le vit au quotidien dans notre métier, et je trouvais que c'était important effectivement d'en parler.
Absolument.
Parce que aujourd'hui c'est au stade de loi, de règlement, et les avantages, les inconvénients, on n'a pas encore de plateforme de pour en discuter en fait.
Il faudrait qu'il y ait une concertation pour pouvoir
pour simplifier
ça,
parce que quelque part les entreprises Surtout les petites et les moyennes cherchent la simplification dans leur organisation et dans leur fonctionnement, et ça n'apporte quand même pas de la simplification pour l'instant, ça complique.
Nous, c'est déjà le cas dans le dans mon secteur. Tout est dématérialisé, donc on envoie les factures par mail. Nos clients, ils ont des plateformes spécifiques. On dépose les factures. Donc voilà, ça a déjà commencé à notre niveau. Oui. Oui. Donc, et c'est vrai que c'est plus simple. C'est plus simple à gérer, à relancer derrière. Donc oui. Ça simplifie.
Il n'y a pas de soucis de rejet, des choses comme ça.
Ça peut arriver, donc, mais on reçoit systématiquement un mail qui confirme que le document est bien conforme. Donc, si on ne le reçoit pas, donc, ça veut dire éventuellement il peut y avoir un souci. Il y a un numéro où on peut appeler pour voir s'il y a un problème. En général, c'est des plateformes à l'étranger. Hein. Donc, ça remonte en Allemagne, en Pologne pour revenir en France.
Oui.
Donc, le circuit n'est
Il est long. Et ça peut à peu près marcher quand on est à la limite une structure pas trop grande, mais quand ce sont des ETI, des grands groupes, ça représente des milliers et des milliers de factures. Ouais. Et quand il y a un rejet,
c'est du temps.
C'est ça.
Gania, je crois que vous êtes en recherche d'un apprenti en gestion, PMI, PME.
Oui, pour l'instant, je lance un appel. C'est un peu... la période n'est pas l'idéal, hein. Il vaut mieux faire ça en mois de juin,
oui.
avant le début de l'année d'études,
oui.
En septembre. Mais on commence à chercher maintenant, en espérant trouver quelqu'un pour la prochaine rentrée, voire avant, si c'est possible, un alternant.
Et un alternant en BTS gestion PMI,
voilà, PME. Pour le former en interne, et voire plus éventuellement.
Encore un mot, Gania, avant de donner la parole à Rim. Vous êtes aussi impliqué dans le milieu associatif et vous participez à une association qui aide à sortir de l'isolement les plus fragiles.
Oui, tout à fait, Jacqueline. Ça fait maintenant une quinzaine d'années. Je suis membre du bureau de l'association Réagir, qui se trouve
très
à Aumône.
Oui.
Et cette association donc a été créée par Monsieur Jacques Maison quelques mois après la vague de chaleur, la première canicule
que nous avons eue
en France.
Oui.
Et prioritairement, c'était justement pour éviter que des personnes, nos aînés en particulier, se retrouvent seules en période de crise et perdent la vie. Et donc, je suis membre du bureau et on a un site internet, une page Facebook, Réagir 95. On organise donc des sorties, principalement pour les personnes âgées, mais pas que. S'ils n'ont pas de moyens de locomotion, les bénévoles s'organisent pour un covoiturage, aller les chercher jusqu'au lieu de l'après-midi festif, du restaurant ou de la sortie théâtre, et on les ramène chez eux. Et c'est des moments de convivialité et d'humanité qui font chaud au cœur.
Et qui vous tiennent à cœur. Oui. Merci beaucoup, Gania, pour la présentation de votre activité, puis également toutes les valeurs que vous véhiculez. Si des auditrices, auditeurs veulent vous contacter, que faut-il faire ?
Alors, on a un site internet, donc saagestion.com. Sinon, on a notre numéro de téléphone ou notre adresse mail, saagestion.accueil@saagestion.com.
Très bien, voilà. Merci. Des informations qui se retrouveront bien sûr dans le podcast. C'est l'heure d'une nouvelle pause. On va pas faire peut-être une longue pause, mais on se retrouve juste après.
Rien n'y faire.
D'être resté avec nous sur EDFM 98 ou 98.fr pour suivre l'économie en direct. C'était Claude François et les Magnolia. Ce matin, portrait, parcours et action de trois femmes chefs d'entreprise dans des domaines très différents. Danielle Dubrac, fondatrice et dirigeante du cabinet Sabimo, présidente de l'UNIS, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Seine-Saint-Denis. Gania Selam, fondatrice et dirigeante du cabinet SA Gestion. Rim Fourcade, dirigeante de la société de transport routier 2M Fret. À présent, focus sur vous, Rim. J'avais eu le plaisir de vous accueillir en mars dernier.
Tout à fait.
Parce qu'à l'époque, vous vouliez témoigner des difficultés en cascade dans le transport liées à la crise géopolitique et sanitaire. Une crise qui ne s'est pas arrangée, non. Au contraire, et nous allons l'aborder très vite. Peut-être juste avant, retracer votre parcours, Rim.
Oui, avec plaisir. Donc, mon histoire n'a pas changé depuis la dernière fois. Donc, je suis arrivée en France après mon bac. Donc, j'ai fait comme Daniel. Hein. J'ai quitté mes parents pour terminer mes études. Bon, je viens d'un peu plus loin, donc j'ai traversé la Méditerranée pour arriver en France. Et j'ai fini mon école de commerce à Toulouse. Après, je suis remontée à Paris en tant que stagiaire dans un cabinet d'assurance. Donc voilà, ma carrière a commencé en tant que courtier en assurance. Je me suis spécialisée dans le transport. C'est comme ça que mes amours avec le transport ont commencé. Au fil de temps, j'étais proche des transporteurs, de mes clients. On échangeait souvent, donc je commence à prendre goût. Et un jour, un de mes clients m'a dit « Bon, Rim, tu connais même mieux que moi le secteur. Ça te dit pas de venir travailler avec moi ou de s'associer ?» Bon, au début, j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc, j'ai gardé mon activité d'assureur.
Oui.
Et à l'époque, j'étais salariée dans un cabinet. Et puis, je me suis associée avec cette personne. Donc, on a commencé c'était en 2012. On a commencé avec un ou deux camions. Et puis, petit à petit, moi, je m'occupais de la partie commerciale. Lui s'occupait de la partie exploitation. Et au bout de quelques années, la société s'est développée, donc on a commencé à avoir une belle flotte. Et puis en 2017-2018, j'ai senti que j'avais besoin de voler de mes propres ailes. Donc à ce moment-là, je me suis dit... Puis on m'a titillé un petit peu, on m'a dit « Oui, toi t'es une femme, t'es une bonne commerciale, tu passes bien avec les gens, mais bon, pour gérer des chauffeurs, c'est un peu plus dur, c'est un métier d'âme. »
C'est ce qu'il fallait pas vous dire.
Tout à fait, surtout que je viens d'une famille, on est deux filles, donc dans notre culture un petit peu,
orientale, de la Méditerranée.
Oui. Donc moi j'avais toujours cette rage ou cette envie de montrer que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas faire de métier d'homme. Donc j'ai fait pendant quelques années parce que j'étais salariée d'un cabinet. Après, j'ai eu l'opportunité de m'associer avec un grand courtier parisien pour monter une filiale spécialisée dans le transport. et j'ai gardé quand même ma casquette de transporteur, donc j'avais les deux casquettes en même temps, ce qui était pas évident jusqu'au Covid, jusqu'au oui. premier confinement où là je prenais un peu de recul et là il fallait faire un choix parce que être maman, chef d'entreprise dans deux secteurs, même s'ils sont
S'il y avait une relation, c'était quand même compliqué.
Voilà, tout à fait. Ouais, je pouvais pas avoir les trois casquettes en même temps. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de laisser de côté mon activité assureur et de me concentrer sur le transport. Donc j'ai commencé, j'étais pas fille de transporteur, ni femme de transporteur, ni de famille de transporteur, loin de là. Toute ma famille, que ce soit au Maroc, en France, personne n'est dans le milieu. Non, pas du tout. Et du coup, j'ai commencé au début, les banques ils nous connaissent pas, donc ils vont pas forcément nous suivre. J'ai commencé avec un emprunt familial. D'ailleurs, c'est grâce à ma sœur et mon beau-frère que j'ai pu démarrer. Et puis, premier camion, deuxième camion. Et puis après, les banques commencent à peuvent nous connaître, oui, à faire confiance.
À vous faire confiance.
Tout à fait. Et puis maintenant, on arrive à une flotte d'une trentaine de camions.
Bravo.
Donc voilà, c'est pas évident, surtout quand on est, comme je vous ai dit la dernière fois, une femme, on arrive avec des talents des talents aiguilles sur des chantiers ou sur des.
Oui, en plus vous êtes très féminine.
Justement, c'était mon but, c'était féminiser, de dire c'est pas parce qu'on est dans un milieu d'hommes qu'on est obligé de les.
Oui, d'être habillée en treillis.
Tout à fait. Donc j'arrive
en botte.
Exactement, j'arrive en robe, en pantalon, en talon. Donc j'ai pas de complexe par rapport à ça. J'ai essayé d'encourager au maximum des femmes à rejoindre mon entreprise, que ce soit l'exploitation, que ce soit en ressources humaines, et même autant que conductrice. J'en ai eu pas mal de femmes. Et d'ailleurs, pour vous dire, c'est pas parce que je suis une femme et je témoigne en leur faveur, mais c'est vrai que des conductrices femmes, j'ai eu plein de problèmes qu'avec des hommes. Déjà, elles prennent bien soin de leur matériel.
C'est ça, vous avez eu moins de problèmes.
Exactement,
avec les femmes.
Oui, tout à fait. Elles sont ponctuelles. Elles prennent soin de leur matériel, ce qui est important. Puis elles sont fidèles. Quand il y a un problème, elles viennent en parler. C'est pas des coups derrière.
C'est enfin, ça. Voilà, c'est vraiment. C'est toutes les qualités qu'on retrouve chez les femmes.
Elles ont moins de
moins de problèmes d'ego.
Exactement. Et puis elles sont, quand elles arrivent dans les, ça c'est le côté un peu positif, c'est que quand on est une femme, on arrive sur une plateforme, c'est vrai que les caristes, les gens à l'exploitation, ils vont l'aider en premier, donc. Enfin, il faut bien aussi profiter du fait que on est toujours discriminé autant que femme et que parfois on utilise cet atout
c'est un milieu qui, malgré tout, est très macho, se féminise de plus en plus et qui permet de donner une autre image du transport routier.
C'est encore dur moi je vois quand je reçois un chauffeur pour un entretien, c'est vrai qu'au début, mon responsable d'exploitation, c'est un homme. Du coup, ils ont plus tendance à le regarder. Tout à fait, comme si ils oublient à un certain moment que c'est moi la patronne. Et en fait, c'est on le sent.
Je comprends.
Et d'ailleurs, ça m'a choquée. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un chauffeur qui a dit à mon exploitante, qui est une femme, qui a beaucoup d'expérience dans le transport, qui était chauffeur routier pendant des années dans la société de ses parents, et dit. Écoutez, vous êtes une femme, vous occupez des papiers, de l'administratif, la réglementation et les camions, c'est pas votre domaine. On était tous choqués comme ça, mais
c'est. Oui, les mentalités sont compliquées à changer.
Tout à fait.
Rim, je voudrais qu'on parle de votre venue ce matin, puisque le gros souci, c'est que le coût de l'énergie, le gasoil notamment, impacte sur le fonctionnement des sociétés de transport. Je vous laisse nous expliquer ce qui se passe.
C'est vrai que depuis un an maintenant, notre secteur est frappé par cette crise
de plein fouet.
Donc c'est, et encore une 2023, ça annonce aussi une année très difficile. Il y a une forte augmentation des frais d'exploitation, le gasoil, le déséquilibre entre l'offre et la demande. Et du coup, la marge, elle est quasiment nulle hein, dans notre... On est même en train de grignoter sur notre trésorerie pour pouvoir
maintenir
l'activité, tout à fait. Hein. Donc, bah, y en a qui nous disent oui, c'est dû à la au Covid, c'est dû à la crise, conflit Ukraine-Russie. Enfin, il y a un peu tout. Il y a un peu tout parce que le conflit en Ukraine, c'est vrai que ça a aggravé la situation avec ça a impacté pas mal la pénurie du personnel parce oui. qu'il y avait beaucoup de chauffeurs routiers qui venaient de l'Europe de l'Est.
Ah oui.
Tout à fait. Par exemple, dans le, moi j'ai une partie de mon activité, c'est sur les chantiers, donc je transporte de la terre. Et c'est vrai que c'est des chauffeurs qui viennent surtout de l'Europe de l'Est. On trouve pas de chauffeurs en France qui veulent.
Oui, parce que alors le problème, c'est puisque j'avais reçu des gens de l'AFT il y a pas très longtemps, c'est que il y a beaucoup moins de transporteurs, mais vous ne trouvez pas de personnel.
Ah
c'est
non,
il y a un gros souci.
Il y a un gros souci. On trouve pas de transporteurs, on trouve pas de chauffeurs. Je passe des annonce pratiquement toutes les semaines. On reçoit des candidats, c'est des jeunes conducteurs, mais ou des gens qui ont changé de carrière parce qu'ils ont entendu parler que le transport ça a recruté, donc ils ont. Mais
ils n'ont pas de formation.
Ils n'ont pas aussi la. Enfin, pour être chauffeur routier, quand même, il faut en vouloir. Hein. Mmh. C'est quand même, c'est un métier. Vous êtes seul dans votre camion. Il faut aimer.
C'est ça.
Et en général, c'est des gens qui le font juste pour avoir. Donc, ils vont travailler une semaine, 15 jours.
Et puis,
après, ils vont s'arrêter.
Ah,
et puis, ils changent d'entreprise ou ils se mettent au chômage. Puis. Encore une fois, avec l'augmentation du gasoil, ça leur coûte plus cher de venir travailler
oui.
que rester chez eux.
Bien sûr.
Donc, donc du coup, le choix est vite fait. Ils préfèrent rester chez eux ou travailler vraiment à côté
oui.
que prendre la voiture et aller travailler. Et encore, mon dépôt, il est situé dans une zone, enfin à côté de,
oui, qui est accessible,
et tout. Mais malgré ça, on a du
c'est
mal.
Compliqué. Donc là aujourd'hui, par rapport à ces problèmes de hausse de carburant, puisque le gouvernement a annoncé la fin de l'aide financière sur l'achat de carburant au 1er janvier 2023, vous attendez des mesures de soutien ?
Bah écoutez, rien qu'hier, j'étais en entretien avec mon syndicat, donc je prends de temps en temps des nouvelles pour savoir s'il y a quelque chose qui se prépare, si on va... Bah malheureusement, non. Il n'y a rien. Rien de prévu pour le moment. Donc, même pour vous dire, c'est ce qui était choquant, c'est que l'année dernière, donc, on a eu une aide modeste pour nous, les entreprises, parce que ça représente pas, ça compense pas notre perte. Mais pour l'État, c'était quand même une somme très, très importante.
Je crois que ça représente 30% des charges, hein, le poste carburant.
Oui, c'est 30-40% de charges. Hein,
oui,
donc,
oui.
C'est quand même
énorme.
Et on a eu une aide de 1 300 € par camion. D'accord, 1 300 €, ça correspond à aller à un plein et demi. Mais bon, c'était toujours
ah oui,
bon
un plein
à
et demi,
prendre.
C'est 1 300 €.
Oui, tout à fait. Et du coup, là, j'entends dire que on sera taxé sur cette aide qu'on a eue l'année dernière, hein, et que notre syndicat est en train de se battre pour justement faire changer d'avis, parce que là, c'est vraiment, on vous donne de droite et on vous reprend de la main gauche, donc c'est vraiment injuste. Hein.
Oui.
Surtout que, il faut, enfin, comme vous le saviez, c'est le prix du gasoil, c'est quoi? C'est à peine 22% de coût de production, 8% de marge pour les distributeurs, Total, voilà, et 60%, ce sont des taxes.
Oui.
Entre les taxes et la TVA, plus la TVA qu'on paye, c'est énorme. Donc c'est vraiment les taxes qui, parce que le baril, bon, il monte, il redescend, mais il a pas atteint des prix extraordinaires.
C'est ça, le prix du baril est beaucoup moins élevé. Donc
voilà.
Oui, il y a un delta là qui est compliqué.
Il y a un delta qui est compliqué à comprendre. Oui, on sait bien que les pays de l'OPEP, ils ont décidé de baisser leur production, ok, mais ça se justifie pas. Vous savez, on est passé de 1,40 € à 2,07 euros, 2,10 euros le litre.
Oui, c'est énorme, c'est énorme. Et ce dont je voudrais parler avec vous aussi, un mot, c'est sur c'est l'accompagnement des donneurs d'ordre, parce que eux, en revanche, n'ont pas changé leur leur vision de, du métier.
Bah, écoutez, ce qui le souci, c'est que ok, ils ont cédé à nous accorder l'indexation gasoil, mais c'est eux qui choisissent cette indexation, et c'est eux qui choisissent les références, donc ils se basent sur des années comme 2004-2008, où c'est moins avantageux pour nous. Donc, ils ne nous laissent pas le choix. Sachant que je travaille avec des grands groupes. Hein, je travaille avec La Poste, le groupe La Poste, hein, tout ce qui est à l'intérieur, Chrono, Via Poste. Je travaille avec FedEx, UPS. Donc, c'est vrai que c'est eux qui font leur... J'ai essayé de faire passer 5-10% d'augmentation.
Ben, ah ça oui, passe c'est pas. Compliqué.
Bah, si vous n'êtes pas content, ils vont,
là,
voilà, ouais, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Hein. Donc, c'est des tableaux Excel qui font la tarification. Ça reflète pas la réalité des choses. Donc c'est malheureux à le dire. Et il n'y a pas que le gasoil aussi.
Oui,
encore
y a
une. Il y a aussi. On a subi 3 augmentations au niveau des coûts du personnel dans la convention collective du transport cette année. Donc, ce qui fait 12,4%, si j'ai bien calculé, d'augmentation. Donc, les salaires ont augmenté, le gasoil a augmenté. Je reçois des courriers tous les jours de mes fournisseurs qui m'annoncent, oui, vu la conjoncture, on va augmenter 5, 6, 7%. Bah, il n'y a que le prix de transport qui n'a pas changé. Donc voilà, il y a un déséquilibre.
Il y a un déséquilibre.
Ouais.
Donc, on peut s'attendre, on en parlait avec tout à l'heure avec la prévention et tout ça, mais on peut s'attendre à des défaillances, hein, chez les transporteurs.
Tout à fait, ça déjà, il y a beaucoup de transporteurs qui ferment, il y a des, en plus, nous, dans la région parisienne, on a plus de concurrence parce que, déjà, les salaires, on les paye plus cher qu'en province. Le gasoil aussi est légèrement plus cher en région parisienne qu'en province. Donc, c'est vrai qu'on n'arrive pas à être compétitif.
Vous n'avez aucun avantage.
Non, aucun avantage. Les locaux, ils sont plus chers.
Oui, oui.
Pour les mêmes locaux, moi, j'ai des confrères en province qui payent le un tiers de ce que je paye. Donc, c'est vrai qu'ils arrivent à trouver plus facilement des chauffeurs que nous.
Je crois que vous voulez intervenir, Daniel.
Alors
Daniel
moi,
Dubrac.
Je trouve formidable parce que d'abord sur les stéréotypes, les métiers d'hommes, bravo. C'est important de faire découvrir ces métiers qui sont aussi des métiers de femmes. Je voulais pas intervenir pour ça parce qu'en plus, elle a une autre peine, c'est les fameuses zones de faible émission avec le crit R. Vous savez, l'étiquette violette que tout le monde rêve d'avoir sur le pare-brise de sa voiture. Et donc, les camions, un camion par exemple électrique, ça coûte 2 fois plus cher qu'un camion au gasoil globalement.
Elle a
vraiment la double ou triple peine dans son activité. Donc ça, vraiment, les chambres de commerce ont alerté sur les ZFE en disant que c'était pas possible que, compte tenu des crises énergétiques, Covid, changer ses camions du jour au lendemain, ça se prévoyait même pas avec un PGE. Enfin, c'est des choses qui sont compliquées. Donc bravo, voilà, je voulais dire ça.
Merci.
Parce que il y a aussi cet aspect-là, et puis il y a beaucoup de démarches sur des carburants nouveaux comme les biocarburants, le gaz différents, mais bon, tout ça coûte de l'argent.
Ça coûte de l'argent et j'ai investi, hein, pour tout vous dire, suite à une demande d'un client, j'ai investi dans le gaz, dans le GNC, donc ça coûte le double du prix d'un camion normal. Donc j'en ai 2 pour le moment qui dorment sur le parking depuis un an.
Ah oui.
Parce que déjà le gaz, il a pris 250%, donc c'est devenu plus cher que le gasoil. Et puis ça s'évapore, dès qu'il roule pas, il a une autonomie de 300-350 km. On n'est pas équipé partout dans les stations par des
pour
des
recharger.
Bornes. Donc les chauffeurs, ils ont pas envie de se
tomber
prendre la tête
en panne,
et de tourner pour trouver une station. Et puis les donneurs d'ordre, ils ont demandé qu'on investisse dans les énergies alternatives, mais ils veulent pas payer la différence.
Et le camion électrique, c'est hors de prix, non? Ou c'est pas possible?
C'est pas possible pour le moment.
Ah oui.
C'est pas possible. On n'a même pas, ils nous proposent pas, nos concessionnaires. Bah, déjà, on n'arrive pas à trouver du matériel, hein, parce que comme il manque des composants qui viennent de Chine, hein, donc toujours on vient. Et ben dans le marché du matériel, on s'est pris 20-30%.
Oui, comme dit Daniel, vous avez toutes les doubles peines dans ce milieu.
Là en ce moment,
c'est compliqué.
Il y a que les gros groupes et encore qui arriveront à surmonter
à s'en sortir.
Mais c'est vrai que moi je suis de taille moyenne, donc je suis pas un petit qui peut avoir peut-être des aides spécifiques, je suis pas un gros transporteur, mais on reste dans une
catégorie.
Dans une catégorie, il faut maintenir le cap, il faut garder. J'ai des contrats avec des clients, donc je dois les honorer. Mais par exemple, c'est des contrats sur 3 ans et on peut pas revenir dire.
Sur les bases qui ont été signées.
Sur les conditions. Ouais. Sinon, j'ai essayé de faire sur un contrat récemment. Hein, ça fait une quinzaine de jours. Bah, le client m'a pas laissé le choix. Il l'a mis en appel d'offres.
D'accord. Ouais.
C'est malheureux à le dire, mais voilà, c'est la.
Bon, Rim, là, c'est bientôt la fin de l'émission, mais Rim, Fourcade, vous revenez quand vous voulez pour témoigner, puis nous tenir informés de.
J'espère que la prochaine fois, ça sera pour des bonnes nouvelles et non pas pour.
J'espère que votre prochaine venue sera plus positive. En tout cas, merci infiniment pour votre témoignage et puis bravo pour tout ce que vous faites dans la profession. Donc c'est la fin de l'émission. Je vais redonner la parole à chacune pour un mot de conclusion. Gania, un petit mot de conclusion avant de nous quitter.
Ben écoutez, Jacqueline, j'ai été ravie de ce moment.
Moi aussi. Ça faisait un moment que vous deviez venir.
Oui,
voilà,
tout à
je suis
fait.
Ravie
donc
que vous soyez là.
Les conditions n'étaient pas réunies. Donc là, les planètes se sont alignées. Donc j'ai pu me libérer. Et c'est un moment agréable.
Oui.
En plus, on peut faire passer des messages concernant la place de la femme dans l'économie. Effectivement, c'est un atout.
C'est important d'en parler.
Voilà,
encore,
c'est un
encore.
Atout et il y a encore du chemin.
Oui.
Voilà.
Merci beaucoup, Gania. Mais pareil, vous reviendrez quand vous voulez pour nous apporter vos actualités.
Merci.
Rim, Fourcade, un mot de conclusion. Malheureusement, oui, l'horizon n'est pas très.
Bah, on garde le moral, on essaie de garder parce qu'on est le capitaine du navire et nous, si on baisse les bras, j'ai quand même 35 personnes derrière moi qui comptent sur moi. Donc, voilà, je peux pas
vous
me permettre.
Vous n'avez pas le droit de défaillir.
Exactement. J'attends quand même un geste de notre gouvernement, de penser à nous. C'est pas parce qu'on n'est pas encore sorti dans les rues pour manifester que on n'a pas de problème.
Que vous n'agissez pas.
Donc on a besoin de sentir qu'ils pensent à nous, que. On demande tout simplement un bouclier tarifaire comme certaines professions. C'est important pour nous, pour notre sérénité et pour pouvoir se projeter dans l'avenir et pouvoir évoluer, développer
projeter. Faire que votre entreprise fonctionne bien, tout simplement.
Tout simplement, oui.
Merci beaucoup, Rim, et on vous souhaite bien sûr tout ce que vous espérez, on vous le souhaite. Merci. Daniel Dubrac, un mot de conclusion.
Moi, je suis vraiment ravie d'être là, parce que ce qui nous caractérise, je pense que c'est qu'on manque pas d'énergie.
Absolument.
Il faut surtout qu'on ait confiance.
C'est la crise énergétique, mais pas chez les femmes.
Et puis, c'est dans les clichés de management, vous voyez bien qu'on est plutôt dans le collaboratif. On n'est pas forcément dans le pouvoir, qu'on est plutôt dans la concertation. Donc, ayons confiance que les auditrices qui sont dans le même cas que nous, qu'elles aient confiance, qu'elles restent pas isolées, qu'elles se fassent accompagner, qu'elles soient dans des clubs d'entreprise. Ça a été cité par l'une d'entre nous. Voilà, et énergie. En tout cas, merci, parce qu'on a pu témoigner que c'était possible encore d'être engagée et puis chef d'entreprise.
Oui. Non, mais il faut beaucoup de femmes comme vous, et j'espère que nos auditrices et auditeurs auront reçu le message et que vous allez créer des vocations parmi elles. Et puis Daniel, on a bien compris que si on avait besoin de vous joindre, vous étiez très accessible et que les personnes qui ont des conseils à vous demander n'hésitent pas.
Absolument. Comme on a écrit pour les ZFE, on peut aussi écrire avec l'AFT, pourquoi pas. C'est des sujets. On a écrit pour les boulangers aussi, n'hésitez pas.
Merci infiniment. Merci d'avoir été en tout cas nos invités en direct et encore bravo pour vos engagements et de tout mettre en œuvre pour réussir pleinement dans toutes vos activités. Merci. Merci Francky pour la technique. Merci à vous tous qui nous écoutez fidèlement. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas alors à en parler autour de vous et pour la réécouter. écouter, retrouver son podcast sur radioidfm.fr ou sur notre appli. Dans quelques minutes, retrouvez Christophe Gravreau et son émission Balade musicale. Vendredi prochain, je vous donne rendez-vous à 9h30, cette fois pour une spéciale chambre des métiers de l'artisanat du Val d'Oise. Belle semaine et à vendredi. Prenez soin de vous et de vos proches.